Alors, le deuxième va amener assez peu de départs contradictoires, puisque ça sera un film, comme vous l'avez peut-être vu dans le programme, sur la voie de la neurobiologie et de la génétique, tout un programme, par une présentation par Angela Serigu, qui a donc, étant donné qu'elle n'a pas pu venir, organisé cette présentation via une vidéo que nous allons pouvoir regarder maintenant. Merci.
Donc, je suis ravie de vous présenter Angela Serigu, qui est directrice de recherche au CNRS, qui est directrice de l'Institut Marc Genereau et qui a développé en tant que chef d'équipe une approche translationnelle dans la recherche dans l'autisme, des outils de dépistage jusqu'aux soins et qui est, je pense, un modèle pour l'organisation des soins basée sur la recherche. Je lui laisse la parole.
Merci, merci Caroline. Merci à la direction de l'hôpital de Vinatier, au docteur Demilly, de m'avoir invité et de faire connaître notre recherche aux différentes personnes qui sont actuellement dans la salle. Cela fait plus de 10 ans que je m'intéresse à l'autisme et actuellement j'ai l'occasion d'une grande collaboration avec l'hôpital de Vinatier de développer différents types de recherches qui vont des bases moléculaires de l'autisme et des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour son dépistage précoce. Donc, comme je dis, il s'agit d'une collaboration avec les groupes du docteur Demilly, mais on va impliquer dans ces projets aussi différents groupes au sein de Vinatier, car le projet il est piloté de façon conjointe entre les Vinatier, l'hôpital de Vinatier, et les CNRS et l'Université de Lyon, bien entendu, auquel notre laboratoire appartient. Mais faites-moi en quelques minutes, je voudrais expliquer pourquoi on est intéressé aux bases moléculaires de l'autisme et de quelles bases moléculaires il s'agit. Eh bien, nous allons nous concentrer sur une molécule qui est très importante à notre avis depuis la recherche chez l'animal et aussi la recherche que nous avons déjà fait chez l'homme, chez les patients en particulier. Il y a une molécule qui nous intéresse tout particulièrement, et il s'agit de la molécule de l'ocytocine. L'ocytocine, il s'agit d'une hormone qui a une influence très importante dans les cerveaux et on sait, d'après différentes études chez l'animal, en particulier les rongeurs, il y en a beaucoup moins chez les primates, on sait que c'est une molécule qui est très importante pour notre capacité à socialiser. Alors, pourquoi l'ocytocine? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec l'autisme? Eh bien, l'ocytocine, c'est une molécule qui est très importante depuis le début de notre vie, c'est-à-dire tout de suite après la naissance. On sait qu'il est libéré de façon très importante pendant l'accouchement et il sert, d'après de la recherche fondamentale qui a été faite par un groupe à Marseille, justement, on sait qu'elle est très importante pour développer les neurones GABAergiques, c'est-à-dire les neurones qui sont inhibiteurs dans notre cerveau. On sait aussi, et on fait l'hypothèse, que cette molécule il pourrait être la molécule qui facilite les contacts entre la mère et l'enfant. Il y a beaucoup de recherches chez les rongeurs concernant le système ocytocinergique et ces recherches justement vont dans le même sens et montrent qu'il s'agit de molécules importantes pour la sociabilité de toutes les espèces. Donc chez les rongeurs, lorsqu'on administre l'ocytocine chez des rats qui sont vierges, on augmente le comportement maternel. Par contre, lorsqu'on injecte un antagoniste, c'est-à-dire une molécule qui va inhiber l'action de l'ocytocine, eh bien, on va inhiber le comportement maternel. Même chez la mère qui vient d'avoir sa propre progéniture. Alors, mais l'ocytocine, la fonction de l'ocytocine n'est pas exclusivement de nature périphérique, comme on peut dire, c'est-à-dire elle n'agit pas simplement sur notre corps, mais elle agit aussi sur notre cerveau. Et on sait par exemple qu'elle facilite la mémoire sociale chez les rongeurs, c'est-à-dire qu'un animal qui est mis à côté d'un congénère et qu'il est remis ensuite dans un deuxième temps, sous l'effet de l'ocytocine la première fois, eh bien, le rat à qui était administré l'ocytocine va reconnaître beaucoup plus facilement l'animal qui va revoir dans un deuxième temps. Donc, il semble avoir, l'ocytocine des effets qui vont au-delà des effets physiologiques, purement physiologiques, et va avoir un effet aussi sur notre comportement cognitif et social. Chez les primates, hélas, il y a très peu de recherches, et chez l'homme, il y en a un peu, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont nécessaires pour comprendre comment cette molécule agit dans notre cerveau. Mais chez les primates, déjà, il a été mis en évidence qu'il y a une relation entre les niveaux d'ocytocine qu'il y a dans notre sang et les niveaux qu'il y a dans notre cerveau. Et on sait que les espèces qui sont très sociables, ils ont un niveau d'ocytocine dans les plasmes qui est très important par rapport à celles qui ne sont pas sociables, et pareil dans les cerveaux. Donc cela veut dire qu'il y a une relation entre l'ocytocine circulant dans notre cerveau et dans notre corps et notre capacité à socialiser. Nous avons montré le même effet. Nous avons montré le même effet chez l'homme. On a montré qu'il y a une corrélation très forte entre les niveaux d'ocytocine dans les plasmas et la capacité à socialiser des individus. Donc il s'agissait des jeunes adultes. Et ce qui est très intéressant et qui a été mis en évidence à travers les espèces, et que les récepteurs à l'ocytocine, qui justement sont les récepteurs, c'est la partie du système qui va capter donc la molécule et module à travers ce captage, l'ocytocine peut moduler à travers le récepteur l'activité des différentes régions qui sont distantes de là où l'ocytocine elle est à son origine. Et on voit bien que les récepteurs, il te montre que les récepteurs sont localisés dans la partie du cerveau qui est importante pour l'espèce dans la communication sociale. Par exemple, chez les oiseaux, les récepteurs ils se retrouvent dans les cortex auditifs. Chez les rongeurs, ils se retrouvent dans les cortex olfactifs. Et chez les primates, ils se retrouvent beaucoup dans les cortex visuels. Donc, il semble que la nature a favorisé une organisation de ces systèmes de telle façon à faciliter la communication sociale. Alors, nous avons en 2010 publié un article dans lequel on montre que chez les adultes qui ont reçu un diagnostic d'autisme, eh bien, les niveaux d'ocytocine dans leur plasma étaient extrêmement bas par rapport à celui des sujets neurotypiques. Et on voit qu'une fois qu'on administre l'ocytocine à ces patients, eh bien, les niveaux d'ocytocine augmentent et augmentent aussi leur capacité de socialisation. Par exemple, un déficit qu'on retrouve chez tous les patients qui ont reçu un diagnostic d'autisme, ceux qui ont des difficultés cognitives et ceux qui n'ont pas, ce qu'on appelle les high functioning, eh bien, il y a un comportement, un comportement qui est qu'on peut considérer comme déficitaire, c'est l'évitement du regard. Ces patients évitent les contacts oculaires lorsque quelqu'un parle devant eux et en fait, ils vont aussi dévier la tête, pas seulement les yeux, mais aussi la tête, ainsi signalant qu'ils ne souhaitent pas interagir avec les autres ou que tout au moins, ils ne recherchent pas une interaction sociale. Évidemment, ne pas rechercher l'interaction sociale, c'est problématique pour les enfants, puisque lorsqu'ils ne se rapportent pas aux autres et aux adultes, eh bien, on peut imaginer qu'un déficit, pas seulement des socialisations, puisqu'il y a les règles qui ne sont des socialisations qui ne sont pas apprises, mais aussi un déficit d'apprentissage de tout ce qu'il y a dans notre monde extérieur. Et donc, on a pensé chose les plus importantes à rétablir, c'est l'évitement et à supprimer, en fait, c'est l'évitement des regards et favoriser donc les contacts oculaires chez ces patients. Et justement, lorsqu'on administre l'ocytocine, eh bien, on augmente la capacité de ces patients, okay, par rapport lorsqu'ils sont sous l'effet du placebo, on augmente leur capacité à socialiser et à regarder lorsqu'ils regardent une image dans la partie qui est socialement la plus saillante, c'est-à-dire les yeux. Alors, À la lumière de tout ce que je viens de vous dire, il est clair que nous avons le devoir d'étudier ces systèmes et comprendre un peu mieux comment chez l'homme ce système il est organisé, chose qui est totalement inconnue, en particulier, pas seulement chez l'homme, mais chez les primates en général. Dans cette étude de collaboration avec les vinatiers, nous souhaitons donc faire démarrer une étude au niveau moléculaire pour étudier la microcircuiterie, comment les circuits à l'intérieur des régions qui sont dans lesquelles les neurones cytosynergiques ont leur origine et dans les régions distantes sous lesquelles ces neurones projettent, comment ces systèmes sont organisés. Et on peut les faire avec un niveau d'analyse qui est très 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 fine, vous allez le voir dans quelques instants. Ici vous avez les deux régions, les noyaux paraventriculaires et les noyaux supraorotiques, où ces neurones ont leur origine. Et à partir de là, il y a un faisceau d'axones qui part vers la périphérie, c'est-à-dire vers le corps, et dans la partie plus dendritique, à travers les dendrites, l'ocytocine est libérée dans toutes les autres régions, dans les cortex et dans les sous-cortex. Donc, on veut établir une carte des réseaux de ces systèmes. Et ce qui est très intéressant est que ces systèmes projettent dans toutes les régions qui sont considérées comme très importantes chez l'homme pour les socialisations et ce qu'on appelle des circuits sociaux. Vous voyez parmi ces régions l'amygdale, les noyaux accumbens, l'hippocampe et toutes les régions corticales qui sont les cortex orbitofrontales, les cortex cellulaires, etc. Donc, une fois qu'on aura compris ces circuits, on pourra aussi mettre en place des projets, même pharmacologiques, pour savoir comment on peut intervenir dans les cas de l'autisme précocement. Ici, encore une autre diapo pour vous montrer les spectres d'activité de ces neurones. Vous voyez ici l'origine de ces neurones dans les noyaux paraventriculaires, ce qu'on appelle les PVN, et vous voyez qu'ils projettent un peu partout. Okay? Et donc, le spectre d'action est vraiment énorme. On veut donc aller aux origines de ces neurones. Alors, comment y aller? Eh bien, avec une postdoc qui est actuellement, Amélie Soumier, qui actuellement travaille dans mon groupe, et grâce donc à l'achat d'un microscope haute résolution que la direction des Vinatiers a accepté dans le cadre de cette collaboration, nous allons donc imager l'organisation de ces neurones. Et on va les faire à travers les espèces. On va faire une étude préclinique et une étude clinique. On va commencer l'organisation moléculaire de ces neurones chez les rongeurs, les comparer à celui des primates et enfin à celui de l'homme. Fait intéressant, nous venons d'avoir de la Brain Bank qui est associée à la fondation Sfari, qui est très importante, une association très importante pour une association pour l'autisme. On vient d'avoir l'acceptation d'un don des différents cerveaux des patients autistes et on pourrait comparer les cerveaux. Donc on fait de l'analyse du tissu post-mortem. On va les comparer à celui des sujets autistes. On va les comparer à celui des sujets neurotypiques. Pour vous donner une idée des degrés d'analyse qu'on peut atteindre avec ce type d'analyse, on a déjà commencé notre étude sur les cerveaux des souris. Et là, vous allez avoir, donc il s'agit d'une vidéo, vous allez avoir un émissaire de l'animal, dans lequel on peut, de façon globale, voir tous les différents circuits du système cytosynergique. Donc, vous voyez ici on a les neurones, l'origine, les PVN, leur projection sur l'amygdale, sur l'hippocampe et sur différentes régions, incluant aussi les cervelles. Et donc, vous voyez qu'ici, on met entrer dans les cerveaux parce qu'on a une vision globale avec cette technique de toutes les connexions qu'il y a à des systèmes aussi, que le système cytosynergique entretient avec les autres systèmes cérébraux. Donc, on veut, en définitive, définir comment il s'est construit ce circuit et le fonctionnement. Bien, voici la première partie de notre projet de collaboration. On souhaite maintenant se concentrer aussi sur une autre partie qui concerne les dépistages précoces de l'autisme. Vous savez qu'il s'agit d'une question très importante puisqu'il y a beaucoup de confusion sur les diagnostics de l'autisme et même lorsqu'on a un diagnostic, on n'est pas vraiment sûr. Et donc, le diagnostic qui va être atteint chez les enfants autistes après beaucoup d'examens. Et il s'agit pour les familles d'une recherche, de ce que leurs enfants ont. Et beaucoup de fois, il y a beaucoup d'enfants qui restent sans diagnostic. Après toutes les recherches que nous avons faites dans ce domaine, on s'est dit qu'on a le devoir, en tant que scientifique, de mettre au point des tests qui sont faciles à faire, qui sont simples et qui peuvent aider les cliniciens pour être une aide au diagnostic. Et donc, on est à la recherche des marqueurs. Les marqueurs, on peut dire que d'une certaine façon, l'évitement des regards, il est marqueur. On sait que ces déficits caractérisent plusieurs patients qui ont un diagnostic d'autisme. Et on sait toujours depuis la recherche, par exemple, les recherches des Klein qui a été publié dans Nature en 2013, qui a montré des images, une vidéo de cette dame qui bouge et il a regardé où les regards des enfants très tôt, des mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 24 mois, il va atterrir lorsqu'il regarde cette vidéo. Et ce qui montre que les sujets qui sont diagnostiqués à 24 mois comme autistes, vers des mois, okay, il regarde un peu partout, comme les sujets neurotypiques. Vous voyez ici, chaque point représente un sujet. Vous voyez qu'il y a une distribution quand même très, très variée. Et pareil pour les autistes. Mais lorsqu'on arrive à 24 mois, les sujets neurotypiques vont se concentrer sur une région, c'est la région des yeux, exactement comme ils font les adultes. Par contre, les enfants qui sont diagnostiqués par la suite comme autisme à 24 mois, eh bien, ils se concentrent depuis le début dans la région de la bouche, exactement comme les adultes que je vous ai montré il y a quelques minutes. Donc, on peut dire qu'il s'agit de l'évitement du regard, il pourrait être même les marqueurs des enfants qui vont développer ensuite l'autisme. Donc, je vous montre ici les trajectoires d'un sujet adulte. On a présenté ces visages, on a enregistré leur mouvement oculaire avec un eye tracker et vous voyez que le sujet s'est concentré sur cette partie, la bouche, et lorsqu'il va vers les yeux, en fait, il évite soigneusement la région des yeux et il regarde surtout dans la partie au milieu. Or, ces comportements oculaires, on peut les enregistrer avec ce qu'on appelle les eye tracker. Le problème, c'est que les eye tracker, on peut les faire que dans un laboratoire. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de programmation. Il s'agit d'un équipement qui est très coûteux. Et il y a beaucoup de programmation donc, derrière. Et donc, ce n'est pas un test facile à faire. On peut les faire que sur un nombre limité de patients. Alors, avec Guillaume Liot et Jean-René Duhamel, Guillaume il vient d'être donc justement recruté dans le centre Genopsy du docteur Denili à l'hôpital de Linatier. Guillaume est l'ingénieur qui a développé avec nous ce système d'eye tracking sans caméra. Et Jean-René Duhamel, qui est chercheur dans notre laboratoire, on a donc mis au point un système qui s'appelle, c'est une mesure des mouvements des yeux à travers les touchés. Alors, comment ça marche? J'espère d'être claire. En deux mots, on s'est inspiré de l'organisation du système visuel. Okay? Vous savez que notre système visuel, l'information qui arrive dans notre cortex visuel, suit une courbe gaussienne. C'est-à-dire qu'il y a au milieu de cette courbe, seulement sous peu de degrés, il y a une résolution très très élevée de notre système visuel, okay, l'image qui voit notre cerveau, elle est très 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 claire, mais tout autour ici, donc à la périphérie, on a une vision périphérique qui est très floue. En réalité, tout ce qui arrive à notre cerveau, il est une image de ce type, par exemple, et l'image est complètement floue. Alors, comment ça se fait qu'on ne voit pas flou, en fait, en réalité, on voit les images, tout ce qu'il est devant nous, c'est en clair. Mais en fait, c'est parce qu'on bouge les yeux, et donc en bougeant les yeux, on bouge notre fovéa. Okay? Et c'est de cette manière que notre cerveau, à travers les différents mouvements de la fovéa, arrive à reconstruire l'image et à en faire une image claire. Mais en réalité, notre système visuel est assez flou. Vous voyez ici la fovéa, c'est une petite partie, et en bougeant la fovéa, on peut donc de cette manière reconstruire une image en clair. Donc nous sommes inspirés de cette organisation du système visuel et on s'est dit que on peut présenter une image floue, c'est ce qu'on fait dans notre système qui s'appelle Digitrapping. On demande au sujet de mettre son doigt à un endroit donné de l'image qu'il choisit lui-même de façon spontanée et ensuite de glisser les doigts sur différentes parties de l'image. Et quand il glisse, le sujet, il va, avec le glissement de son doigt, il va découvrir l'image petit à petit. Okay? Je vais vous donner un exemple ici. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que le sujet, de façon spontanée, va se concentrer sur la partie de l'image qui l'intéresse le plus. Et ici, on peut reconstruire de façon très très rapide ce qu'on appelle les cartes de chaleur, les heat maps, qui nous disent là où les sujets ont exploré, la partie de l'image qui a été explorée le plus par 10, 20, 30, 100, 500 sujets. Vous voyez que les parties qui se sont, sur lesquelles les sujets se sont concentrés le plus, c'est surtout les visages, bon, d'autres parties aussi. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut reproduire de manière très très fiable ces comportements chez des milliers de sujets. Par exemple, ici, on a déjà effectué plusieurs études. Ici, il s'agit d'une exploration de cette image chez des sujets contrôle, donc un sujet neurotypique. Vous voyez qu'on a des parties bien particulières qui sont les visages. C'est la partie qui interagit, qui intéresse les sujets. Et ici, vous avez l'exploration de cette image par un patient qui a une lésion du cortex pariétal droite, qui est cette partie postérieure du cerveau. Et vous voyez que les sujets qui, le patient va, suite à sa lésion, négliger toute la partie gauche de son image, de l'image, et il va donc explorer la partie seulement droite, c'est-à-dire celle pour laquelle il a la conscience. Et son exploration cadre parfaitement avec les déficits qu'on observe chez ces patients. Et voici l'exploration des sujets autistes. Ce patient, il a 14 ans. Et vous voyez que, contrairement au sujet neurotypique qui se concentre sur les visages, le sujet autiste va se concentrer sur les parties extérieures de l'image et il évite de manière très importante, de manière, je dirais même soigneusement, il va éviter les parties qui sont socialement saillantes. Alors, ces comportements, on l'a reproduit chez beaucoup de patients déjà. On a aussi fait des études dans lesquelles on voulait être sûr que ce qu'on mesure à travers les eye tracking avec les systèmes oculaires, d'enregistrement de mouvements oculaires, est exactement la même chose que lorsqu'on explore avec les doigts. Vous voyez ici une image qui nous dit qu'on explore exactement la même partie. Et ici vous avez un patient neurotypique qui se concentre sur cette image sous les yeux, comme tous les sujets neurotypiques. Et ici, un patient qui a reçu un diagnostic d'autisme, toujours 14 ans. Et vous voyez ici que ce patient évite de façon importante aussi, à nouveau, la région des yeux. Ici, vous avez à nouveau des comportements neurotypiques, le comportement d'enfants neurotypiques, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans. Et vous voyez que l'écart d'exploration, il ressemble à celle des adultes. Les visages en premier, on explore les visages en premier, on est très attiré par les visages. À 8 ans, on a une exploration encore plus large, mais à 9 ans aussi. Et à 12 ans, on voit que l'exploration il se concentre vraiment sur l'interaction entre les deux protagonistes de l'image. Ici, vous avez un enfant qui a reçu un diagnostic de 6 ans, qui a reçu un diagnostic d'autisme. Vous voyez ici que l'exploration, il passe la plupart du temps dans des détails de l'image, tout en haut de l'image, qui n'ont rien à voir avec, qui sont les parties socialement saillantes sur lesquelles il s'arrête les sujets neurotypiques. Et ici, encore un patient de 8 ans qui montre encore une exploration atypique en se concentrant aussi sur des détails. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi testé des patients, 20 patients autistes qui avaient été réhabilités. Et même avec la réhabilitation, on peut détecter de manière très importante avec ces tests qu'il y a un déficit d'exploration tel qu'on les retrouve chez les patients qui ne sont pas réhabilités, qui ont aussi reçu un diagnostic d'autisme. Vous voyez que les sujets autistes, ils vont se concentrer sur la région des cheveux. Ils aiment beaucoup cette partie. Et les sujets neurotypiques vont se concentrer, bien sûr, sur le visage. Alors, l'intérêt de tout cela est qu'avec les projets de collaboration qu'on a lancés au niveau avec les Vinatier, donc les Vinatier, les promoteurs de ces projets, il est promoteur pour les comités d'éthique, et avec ces grands projets qu'on a lancés avec les Vinatier, mais aussi avec d'autres centres au niveau national et avec des centres au niveau international, on peut, plus de données on recueille, mieux ça va être, parce qu'on peut avoir un algorithme d'intelligence artificielle qui va nous permettre de définir, lorsqu'un clinicien va tester un enfant, il va permettre de définir à ce clinicien si le patient qui était testé va, si sa performance va rentrer dans la courbe des sujets neurotypiques ou il va se retrouver dans une courbe différente qui est celle des sujets de la population autiste. Donc voilà, je pense que là on a un outil potentiellement très intéressant parce qu'on élimine les systèmes eye tracking qui est très coûteux et pour lequel on emploie beaucoup d'états à mettre en place. On peut tester, donc mettre en évidence un déficit qui est particulièrement caractéristique de l'autisme, qui est l'évitement du regard, avec un système, avec une seule tablette ou l'iPhone. On peut donc tester, charger des images dans ces systèmes à travers Internet. On peut ensuite, à travers un serveur qui est dédié, dans lequel toutes les données sont anonymisées, on peut renvoyer ensuite aux cliniciens les patterns d'exploration de ces patients et une classification de sa performance. Alors, donc, ce système, j'espère qu'on va pouvoir le mettre très, très rapidement pour l'utilisation de la communauté clinique et aussi scientifique. Voilà, donc, je vous ai présenté des projets qui, pour nous, sont très importants et qui sont au cœur de notre collaboration avec l'hôpital de Vinatier et avec d'autres centres en France et en Europe en général. Mais ces projets, il est très important de les spécifier, sont pilotés de manière conjointe entre mon centre et l'hôpital de Vinatier. Merci à tous.
Nous lui transmettrons vos applaudissements. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à gérer les communications en vidéo qui sont déjà fixées à 29 minutes 40 secondes. Clairement, il n'y a pas de souci. C'est particulièrement intéressant d'apprendre que l'ocytocine est programmée pour permettre de regarder les décolletés des jeunes filles. Donc, comme quoi on apprend en neurosciences tous les jours. Toute plaisanterie à part, l'ocytocine est vraiment, effectivement, un acteur tout à fait passionnant. Il est déterminé en partie par les facteurs génétiques, il peut se tester au niveau pharmacologique puisqu'on peut l'avoir en intranasal. Il amène des modifications qui sont utilisées certes dans l'autisme mais aussi dans la dépression avec des résultats absolument passionnants. C'est vraiment des ouvertures de nouveaux paradigmes qui, on l'espère, pourra changer un peu les choses.